France Inter, il est 19h, le rendez-vous avec le journal de Christophe Beck. Bonsoir Christophe Beck.
Bonsoir. Après l'identification du corps de Steve à Nantes, place à l'enquête. Le Premier ministre a révélé les résultats de celle de l'IGPN qui dédouane les forces de l'ordre. Mais Édouard Philippe annonce aussitôt une enquête administrative pour répondre à la confusion des événements. La classe politique appelle à des investigations exemplaires, à l'instar de la France Insoumise, qui plaide pour une commission d'enquête parlementaire. Nous irons à Nantes au début de ce journal, où le soutien de Steve ont suivi ses derniers développements avec émotion. En Seine-Saint-Denis, après les soupçons de maltraitance dans un foyer pour handicapés de Pavillon-sur-Bois, l'agence régionale de santé n'a pas tardé à réagir. Elle place l'établissement sous administration provisoire. Nous parlerons de ce rapport de l'OMS, pas très tendre pour la cigarette électronique, de cette enquête sur un accident de drone à Perpignan et à l'étranger, la pression qui s'accentue sur la Russie après les arrestations du week-end dernier. Le téléphone sonne, s'intéresse ce soir au code vestimentaire, Yves Decamp.
Eh oui, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es, sur les plages, au travail ou bien au gouvernement, y a-t-il des codes vestimentaires? Et faut-il absolument les respecter? Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
À tout à l'heure, 19h20. La météo, la dernière journée de juillet s'annonce humide sur le nord-ouest, plutôt ensoleillé au sud, nous dira Sébastien Déas.
France Inter.
C'est une affaire qui a ému la France entière et qui est suivie au plus haut sommet de l'État. La disparition de Steve Maya Canisso, dont le corps a été repêché dans la Loire à Nantes hier soir et identifié formellement par l'autopsie ce matin. L'animateur périscolaire de 24 ans était porté disparu depuis la nuit de la fête de la musique et cette charge controversée des forces de l'ordre sur les bords de la Loire. Avant de revenir sur les annonces du Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est exprimé en milieu d'après-midi, direction la ville de Nantes, où une centaine de personnes proches de Steve ou habitants émus par son histoire se sont rassemblées en fin de journée à l'endroit où le corps a été repêché, Sarah Tucherer.
À la rambarde, au bout du ponton, quelques bouquets de roses blanches ont été accrochés et des bougies allumées. Des membres de la famille de Steve sont là, des amis aussi, comme Alexane. Le 21 juin, elle était à la fête de la musique sur les quais de la Loire. Elle est partie avant que ça dégénère. Aujourd'hui, ses sentiments, comme ceux de tout l'entourage de Steve, sont mêlés.
Pour beaucoup de gens, oui, c'est un soulagement d'avoir enfin retrouvé le corps parce qu'ils vont enfin pouvoir commencer à faire leur deuil. Et même, rien qu'au niveau de la justice, on peut enfin mettre des mots sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire homicide involontaire, apparemment. De la colère, oui, parce que on a déjà eu les conclusions de l'IGPN qui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre la disparition, la mort de Steve et la charge de police. Je vois pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas de lien, en fait. Et je vois pas comment ils ont pu tirer leurs conclusions.
Après cette étape en bord de Loire, les participants ont pris la direction de la place Royale dans le centre de Nantes. Là, plus tôt dans l'après-midi, des militants sont venus verser du colorant rouge dans une fontaine. Le sang de Steve, ont-ils expliqué, une manière pour eux de dénoncer les violences policières en général.
Sarah Tucherer en direct de Nantes avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Sur le front des enquêtes à présent, le Premier ministre a présenté les conclusions de la première d'entre elles, celle de l'inspection générale de la police nationale. L'IGPN conclut à l'absence de lien entre l'intervention des forces de l'ordre cette nuit-là à Nantes et la disparition de Steve. Jean-Philippe Deniaux, bonsoir. Mais Édouard Philippe parle de confusion dans l'enchaînement des événements et demande une nouvelle enquête confiée cette fois-ci à l'inspection générale de l'administration.
Oui, Édouard Philippe demande à l'IGA d'examiner d'autres circonstances qui ont conduit cette nuit-là à ce qu'une dizaine de jeunes tombent dans la Loire, puisque l'IGPN exclut qu'une charge policière en ait été la cause. Et le Premier ministre pose quatre questions.
Dans quelles conditions des sound systems ont-ils pu être installés sur certaines parties des quais de la Loire ne disposant ni de garde-corps, ni de barriérage? Compte tenu de la proximité immédiate de la Loire, les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnées? Les autorités de police disposaient-elles d'une conduite à tenir suffisamment claire face aux éventuels troubles à l'ordre public? Les conditions de remontée de l'information auprès des différentes autorités leur ont-elles permis de prendre les décisions appropriées? Plus de 5 semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l'enchaînement des faits, reste confus.
Et pourtant, dans son rapport, l'IGPN apporte déjà quelques réponses à ces questions. Elle met en cause la mairie de Nantes qui n'avait positionné que 2 agents de sécurité en bordure de fleuve et n'avait pas installé de barriérage jusqu'au bout du quai. L'IGPN souligne également que la préfecture et la police avaient certainement sous-estimé le dispositif de sécurisation et elle s'interroge sur la stratégie d'intervention déployée par le commissaire qui a conduit ses troupes à entrer en contact avec la foule hostile.
Jean-Philippe Philippe Deniaud. Affaire suivie au plus haut de l'État et dans la classe politique qui réclame toute la lumière sur ce drame. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, répond au Premier ministre et rappelle sa revendication clamée ce matin, la création d'une commission d'enquête parlementaire.
Je retiens une première chose, malheureusement, c'est pas une surprise, c'est que une fois de plus, dans ce genre de situation, l'IGPN botte en touche. Donc ça montre vraiment que c'est pas ce genre de structure qu'il faut pour juger des faits commis par la police. Bon, ça, c'est, j'allais dire, c'est en préambule. Ensuite, j'observe quand même que le Premier ministre doute qu'il va déclencher une enquête administrative. Bon, fort bien, mais maintenant, je pense que c'est surtout qu'il faut surtout compter sur la justice. Voilà, et il faut que la justice puisse avancer en toute indépendance. Et en plus de ça, il y a une commission parlementaire, exactement comme on a eu pour l'affaire Benalla. C'était le même processus. Je crois vraiment qu'il faut qu'on y voit clair sur ce qui s'est passé, parce que c'est assez le symptôme, malheureusement, d'une époque où la police agit hors de toute proportion par rapport aux faits incriminés, et avec, cette fois-ci, un drame à la clé. Moi, je pense vraiment aux parents ce soir. Enfin, c'est quelque chose de vraiment abominable qui s'est passé. Il faut y voir clair.
Émotion populaire enfin, et au-delà de Nantes, à Toulouse, une centaine de personnes s'est rassemblée spontanément cet après-midi en hommage à Steve. Une manifestation est annoncée à Laval samedi prochain contre les violences policières. Nous vous en parlions ce matin, des cas de maltraitance dénoncés par certains parents dans un foyer pour jeunes adultes dépendants à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France, saisie de 13 signalements, confirme les soupçons et annonce le placement sous administration provisoire de cette maison d'accueil spécialisée. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a tenu à prendre la parole sur cette affaire en raison de sa gravité.
Les faits sont accablants. Accablant sur la violence présumée, mais surtout accablant aussi de gestion. Donc d'abord, je vous confirme que l'auteur présumé des faits a été mis à pied à titre conservatoire immédiatement, dès la connaissance des faits, et il y a une procédure de licenciement. Donc je voudrais quand même rassurer les parents sur ce sujet. Mais en effet, les constats faits lors de l'inspection, j'ai demandé immédiatement à l'Agence régionale de santé de prendre toutes les mesures nécessaires. Et la première des mesures, qui est assez exceptionnelle, mais là c'est vraiment les faits sont aussi exceptionnels, c'est tout simplement une mise sous administration provisoire. Nous retirons la gestion de l'administration à l'association LAPI, compte tenu des manquements que l'inspection inopinée a révélés, au-delà même aussi des faits de maltraitance.
La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, au téléphone d'Aurélien Accard. À Amiens, 44 salariés sauvés, mais 138 sans solution. Le tribunal de commerce a validé cet après-midi l'offre de reprise partielle de WN par la société Ageco Agencement. WN était en redressement judiciaire après avoir échoué à relancer l'activité sur l'ancienne usine de Sèche-Linze Whirlpool. Les 138 salariés non repris seront licenciés le 19 août. Faut-il brûler la cigarette électronique ? L'OMS, dans un rapport rendu vendredi, se montre clairement sceptique. Elle qualifie la cigarette électronique d'incontestablement nocive et émet clairement des doutes sur la pertinence de son utilisation. En clair, elle déconseille de s'en servir pour l'arrêt du tabac. Bad Buzz déplore les fabricants d'e-cigarettes. Les médecins, de leur côté, Véronique Julia, s'interrogent.
Évidemment, les experts de l'OMS le reconnaissent, la cigarette électronique restera toujours moins nocive que la cigarette. Mais finalement, quel est son risque? Quel impact peuvent avoir à long terme les vapeurs inhalées? Et qu'est-ce qu'on inhale au juste? On ne sait pas. Le principe de précaution pour l'OMS doit donc s'imposer. Un avis partagé par le professeur Yves Martinet. Il préside le Comité national contre le tabagisme.
Actuellement, on ne peut pas répondre à cette question de savoir quel est l'importance des risques liés à la consommation de e-cigarettes. Je vais vous donner simplement un exemple. En tant que pneumologue, j'ai suivi des cancers du poumon et des cancers de la plèvre. C'est des sujets qui avaient été exposés à l'amiante. Ces cancers surviennent 30 ans après le début de l'exposition. Il est clair qu'on n'a pas assez de recul.
D'autant qu'on ne connaît pas vraiment non plus l'efficacité réelle de l'e-cigarette pour arrêter le tabac. En France, une étude est en cours pour tenter de la mesurer. Certains spécialistes défendent l'idée que c'est un bon substitut, d'autres sont plus mesurés. Jean Moiroux, le président de la FIVAP, qui représente l'industrie de la cigarette électronique, affirme évidemment que c'est un moindre mal.
Personne ne prétend que le vapotage est inoffensif. La question, c'est de savoir si le vapotage permet à quelqu'un, un fumeur, d'avoir une vie meilleure et réduire son risque par rapport aux pathologies liées au tabac. Et c'est le cas dans une très large proportion. Et le consensus médical, il existe là-dessus.
D'après Santé publique France, la cigarette électronique a aidé 700 000 Français à arrêter de fumer depuis 7 ans. Malgré tout, près de la moitié des vapoteurs français continuent à fumer tous les jours ou occasionnellement.
C'est une première en Europe. Le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, ouvre une enquête après le crash d'un drone qui a fait 2 blessés au festival Electro Beach à Barcarès le 14 juillet dernier. L'engin filmait le concert lorsqu'il a été victime d'une panne de batterie. 2 enquêtes sont en cours. L'une judiciaire, ouverte par le parquet de Perpignan, confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. Et l'autre par le BEA, qui s'est auto-saisi, Emmanuel Grabet.
Le but du BEA ici, c'est de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a mené au crash du drone et d'établir du coup des recommandations pour que ça ne se reproduise plus. Pour ce qui est des responsabilités, qui est fautif de quoi, ça c'est à la justice de le déterminer. Le gérant de la société, propriétaire du drone, qui collabore avec le festival depuis plusieurs années, affirme qu'il avait toutes les autorisations, que tout a été fait dans les règles. Il parle d'un enchaînement de circonstances. L'engin a eu un problème de batterie, il s'est mis en sécurité, il a cherché à se poser, mais en descendant, il a heurté la structure de la scène, une hélice s'est cassée, il a dérivé vers le public et donc blessé 2 festivaliers. L'un des deux a eu 4 jours d'ITT, incapacité temporaire de travail. Mais l'enquête judiciaire est ouverte pour blessure involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et non-respect d'un arrêté préfectoral. En l'occurrence, selon le parquet, le pilote du drone n'aurait pas respecté les restrictions de vol imposées par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile.
À Tours, victoire partielle des Antilink. Le tribunal de grande instance de Tours ordonne le retrait du compteur intelligent d'Enedis pour 13 des 121 requérants. Pour raison de santé, certificat médical à l'appui, les 108 autres dossiers sont rejetés. À l'étranger, la pression s'accentue sur Moscou après les arrestations massives samedi en marge d'une manifestation pour des élections municipales libres. Plus de 1400 arrestations. La France, l'Allemagne, l'ONU s'inquiètent de cette répression et demandent une libération rapide des manifestants, tandis que la justice russe réclame contre eux une condamnation sévère. Christian Chéneau.
Face à la réprobation internationale, la justice russe n'entend pas relâcher sa poigne de fer. Elle vient d'annoncer une enquête pour troubles massifs après la manifestation de l'opposition réprimée samedi dernier à Moscou. Ce processus judiciaire pourrait entraîner des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Le comité d'enquête a également lancé des procédures pénales pour violence contre les forces de l'ordre. Le parquet russe a par ailleurs demandé au juge d'agir avec sévérité contre tous ceux qui participent à des manifestations non autorisées. L'ONU, la France et l'Allemagne estiment qu'il s'agit là de protestations pacifiques et que la police russe a fait un usage disproportionné de la force contre les manifestants. Dans ce climat tendu, un tribunal de Moscou a rejeté la demande de libération anticipée pour des raisons de sécurité de l'opposant Alexei Navalny qui purge une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé à manifester à Moscou. Dans son bras de fer avec le pouvoir russe, l'opposition prépare déjà une nouvelle manifestation samedi prochain qui risque elle aussi d'être interdite par la justice.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson assure à son homologue irlandais qu'il n'y aura pas de frontière entre les deux Irlandes après le Brexit. Mais en même temps, il s'oppose au filet de sécurité, le fameux backstop proposé par l'Europe pour éviter cette frontière. Les enfants premières victimes du virus Ebola en République démocratique du Congo. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'Agence des Nations Unies parle d'un nombre sans précédent d'enfants atteints par la maladie qui a déjà fait plus de 1700 morts, quasiment un an, jour pour jour, depuis sa réapparition en RDC. À Genève, les explications de Jérémy Lange.
Sur les 2671 cas d'Ebola répertoriés à ce jour, plus de 25% sont des enfants. C'est plus en proportion que lors de la dernière grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. En cause notamment les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections contractées dans les centres de santé, très fréquentées dans l'est de la RDC, selon Jérôme Pfaffmann. Il est spécialiste santé à l'UNICEF.
Lorsqu'un enfant est malade d'une autre maladie, les parents amènent ses enfants dans un centre de santé et après, ils peuvent être contaminés pendant les soins et après développer la maladie. Donc ça, c'est une des raisons principales. Une autre raison, c'est effectivement tout le monde soigne les enfants lorsqu'ils sont malades. Particulièrement, les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge par l'ensemble de la communauté et du coup sont exposés à plus de personnes contact éventuellement.
L'UNICEF le rappelle, Ebola n'est pas la seule menace sanitaire pour les enfants en RDC. À elle seule, la rougeole tue autant qu'Ebola et le choléra réunis. Et dans cette bataille, l'argent reste le nerf de la guerre. L'UNICEF appelle la communauté internationale canal a l'aidé à financer ses programmes en RDC, alors que ses besoins ont triplé en 2019. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Soulagement en Turquie pour les soutiens du mathématicien Tuna Altinel, enseignant à Lyon. Nous vous en parlions ce matin. Il était jugé pour appartenance à une organisation terroriste. Le juge turc a ordonné cet après-midi sa remise en liberté sans mesure de contrôle judiciaire. Ses soutiens annoncent qu'ils vont l'attendre devant les portes de la prison de Balıkesir, dans l'ouest de la Turquie ce soir. Deux jours après l'épilogue du Tour de France, c'est le premier critérium cycliste de l'été, disputé ce soir à Lisieux, une tradition en terre normande depuis 38 ans. Une partie des acteurs de la Grande Boucle sont de la fête, même si les organisateurs regrettent l'absence des Alaphilippe, Bardet et Pinot. Jean-Pierre Blimaud, bonsoir.
Bonsoir.
Malgré ces absences, le public est au rendez-vous pour un événement plus festif que sportif, Jean-Pierre.
Oui, puisque nous sommes deux jours après l'arrivée sur les Champs-Élysées et une partie des coureurs de ce Tour de France s'est donné rendez-vous ici à Lisieux, petite ville du Pays d'Auge dans le Calvados, avec évidemment énormément de monde chaque année, et cela quels que soient les engagés. Alors évidemment, l'an dernier, Julien Alaphilippe avait levé les bras, il était présent ici, il ne sera pas ce soir, il n'y aura pas Thibaut Pinot qui a failli gagner le Tour de France mais qui est blessé et donc qui ne peut pas participer, mais il y a tout de même Warren Barguil, meilleur grimpeur du Tour il y a deux ans, et qui a d'ailleurs gagné ici à Lisieux et qui était très entouré tout à l'heure par les jeunes spectateurs notamment, qui peuvent approcher les coureurs qu'ils ont vus à la télévision il y a quelques jours. Et là, ils les voient en vrai. C'est ce que m'a dit un très jeune spectateur qui venait même de Cherbourg jusqu'à Lisieux. Et donc finalement, c'est ça aussi le critérium d'après-tour. C'est à la fois un événement sportif, mais festif, où les coureurs ont beaucoup moins de pression. Et ça, c'est Guillaume Martin, l'un des coureurs du Tour de France, qui me l'a dit il y a quelques instants. Et c'est aussi l'occasion d'une très belle fête, ambiance kermesse, ambiance un petit peu de critérium à la belge. Mais c'est une institution, il faut le savoir ici, hein, Christophe, puisqu'il y a un critérium à Lisieux depuis 1981. Et c'est donc la 38e édition cette année, puisqu'il y a une seule fois en 82 où il n'a pas eu lieu.
Merci Jean-Pierre Blimaud depuis Lisieux, où le critérium s'élancera à partir de 20h30.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Retour au calme attendu demain, Sébastien Léas.
Oui, ce soir et cette nuit, il faut encore s'attendre à des passages d'averses entre la Normandie et le nord de la Seine, et quelques averses toucheront aussi la façade est du pays. Mais demain, le temps va devenir de plus en plus sec. Sur les Hauts-de-France, les dernières averses s'évacueront avant la mi-journée. Sur le Jura et les Alpes du Nord, la calmie sera même plus précoce dès le début de matinée. Ailleurs, la matinée hésitera entre éclaircies et paquets nuageux, parfois nombreux. Le soleil sera plus généreux sur les régions méditerranéennes, sous l'effet du Mistral et de la Tramontane. En revanche, du Finistère à la Vendée, la matinée sera plus grise. L'après-midi, le soleil va s'affirmer sur la majeure partie du pays. Le ciel sera même peu nuageux, des Pyrénées à la Sologne, au Jura et aux Alpes jusqu'au sud-est. En revanche, la Bretagne gardera un temps plus nébuleux, avec même des risques d'averses.
Température en baisse à l'est, en hausse à l'ouest.
Oui, l'air chaud encore présent sur les régions de l'est va s'évacuer. Le Mistral et la Tramontane vont aussi faire baisser les températures demain, alors que le retour du soleil sur l'ouest va permettre de regagner quelques degrés. Demain après-midi, il fera 22 degrés à Abbeville, 24 degrés à Caen, Rennes, Nantes, Reims et Besançon, 25 degrés pour Paris et pour Bayonne, 26 degrés à Célestat, Dijon et Bordeaux et 27 degrés à Lyon. Autour de la Méditerranée, on ira au-delà des 30 degrés, avec par exemple 31 degrés au Cap d'Agde, à Aix-en-Provence, à Nîmes et à Bastia, et des pointes jusqu'à 35 voire 36 degrés dans le Var.
Sébastien Léas, merci.